ne sont que quatre et n'ont pas pu faire une cérémonie comme celle d'aujourd'hui dans chaque prieuré. Donc, bien chers fidèles, vous êtes des privilégiés, une fois de plus, n'est-ce pas, nous vous le disons, et dans l'action de grâce pour cette journée. Et nous sommes bien sûr dans l'action de grâce pour le sacre et nous remercions beaucoup de Monseigneur Tissier d'être ce soir, cet après-midi parmi nous, toute cette journée, et de venir nous dire ce qu'a été l'acte de Monseigneur, puisque à distance, n'est-ce pas, ceux qui n'ont pas vécu, ou bien ceux qui auraient pu y être, on a pu oublier tout ce que représentait pour Monseigneur cette décision, et nous sommes très reconnaissants à Monseigneur Tissier, à son Excellence, de nous dire aujourd'hui ce que fut le combat de Monseigneur à cette occasion, afin de faire grandir encore en nous la reconnaissance et puis l'admiration pour notre fondateur et pouvoir ainsi être plus fidèle à l'exemple qu'il nous a donné.
Chers amis, donc, cette conférence s'intitule « Opération survie ». C'est le titre que Mgr Lefebvre a donné au sacre épiscopal. Opération survie, survie de la tradition, survie de l'Église. Mgr Lefebvre a été contraint par les circonstances à procéder à ces sacres. Ce n'est pas lui qui l'a voulu, c'est la Providence. Il a été poussé, d'une part, par les scandales qui avaient lieu à Rome, du temps du pape Jean-Paul II, et ensuite par sa vieillesse, sa maladie. Il disait « Je ne peux plus traverser les océans, je vais mourir, et que va devenir, non pas moi d'œuvre, mais la petite œuvre que la Providence m'a permis de fonder à Fribourg d'abord, et ensuite dans le monde entier, la cathédrale Saint-Élise. Que va-t-elle devenir si je meurs? Qui va ordonner mes évêques, mes prêtres et mes séminaristes? » Voilà. Donc il y avait deux choses qui urgeaient Mgr Lefebvre. D'une part, les scandales à Rome, je vous en parlais, et d'autre part, la vieillesse de Mgr Lefebvre. Il a sacré en 1988 et il est mort en 91, trois ans après. Donc c'était in extremis. Alors premièrement, les scandales au sommet, comme on dit. On parle d'une réunion au sommet, là je parlerai des scandales au sommet. C'est une vieille histoire, mais les plus jeunes parmi nous ne l'ont pas vécu. C'était le pape Jean-Paul II. Pape polonais, on supposait anticommuniste, et on se réjouissait d'une certaine manière de son élection en 1978. Tout le monde se réjouissait. Voilà un pape qui vient de l'Est, qui va combattre le communisme et toutes les erreurs. Et on ne le connaissait pas. À peine élu pape, il a écrit une encyclique, Redemptor Hominis, le rédempteur de l'homme, où il propage la théorie de la rédemption universelle, où tous les hommes sont rachetés et sauvés. C'est ça la rédemption universelle. Non seulement que Jésus a souffert pour tous, mais que tous sont sauvés. Je cite, il a écrit dans Redemptor Hominis le 4 mars 1979, « Tout homme devenu participant de la plénitude du mystère, ça, c'est dès l'instant de sa conception près du cœur de sa mère. » Donc tout homme, dès sa conception dans le sein de sa maman, est participant de la plénitude du mystère de la rédemption. C'est lui qui dit ça. Ou, poser la question, où parle-t-on du baptême? À quoi comment elles sont baptisées. Ou est-il question de l'incorporation au Christ par le baptême? Jean-Paul II ne parlait même pas du baptême dans son encyclique. Ensuite, Jean-Paul II, dans son message aux chrétiens nazis à Manille, aux Philippines, le 21 février 1981, déclarait « Dans l'Esprit Saint, chaque personne et chaque peuple sont devenus, par la croix et la résurrection du Christ, des enfants de Dieu, des participants de la nature divine et des héritiers de la vie éternelle. » Fin de citation. Donc je répète, dans l'Esprit Saint, très bien. Chaque personne, chaque peuple sont devenus des enfants de Dieu. C'est tout. On ne parle pas du baptême, on ne parle pas de la conversion, on ne parle pas de l'entrée dans l'Église catholique, non. Chaque personne, chaque peuple sont devenus des enfants de Dieu par la croix et la résurrection du Christ. Participant à la nature divine et héritier de la vie éternelle. Ce sont des choses fausses. Ce sont des quasi hérésies. Pour recevoir les fruits de la rédemption, il faut croire en Jésus-Christ, dans sa divinité. Il faut recevoir le baptême. C'est pas tous les hommes, c'est pas chaque homme. C'est seulement ceux qui l'ont reçu. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Saint Jean, dans son évangile, c'est élémentaire. À ceux qui l'ont reçu, aux autres. Donc voyez, Jean-Paul II prêchait une hérésie. Ensuite, deuxième chose, la publication du nouveau code de droit canonique, le droit de l'Église, la collection de toutes les lois de l'Église, publié le 25 janvier 1983. Alors, où il y avait des choses graves, par exemple, le double sujet du pouvoir suprême dans l'Église. Jusqu'à présent, nous avons appris au catéchisme qu'il y a un seul chef de l'Église, le pape, le vicaire de Jésus-Christ. Alors, maintenant, nous avons appris qu'il y avait deux têtes, deux chefs suprêmes de l'Église. D'un côté, le pape, et d'autre part, le collège des évêques, publié, présidé par le pape. Voilà. Un double sujet du pouvoir suprême dans l'Église. Autrement dit, les évêques auraient dit toujours au pape, mais, très Saint-Père, vous nous appelez pas à gouverner l'Église avec vous, et pourtant, nous sommes le chef de l'Église avec vous. La collégialité. Ensuite, l'Église communion. Dans le nouveau droit canon, l'Église communion. L'Église est dans une hiérarchie avec un clergé qui dirige les simples fidèles. Avec une hiérarchie, non. L'Église est une communion. Donc une démocratie. Où chacun a une certaine participation au sacerdoce de Jésus-Christ. Tous sont membres du peuple de Dieu et ils participent à leur manière au triple pouvoir du Christ, sacerdotal, prophétique et royal. Donc tous les fidèles participent au triple pouvoir du Christ, sacerdotal, prophétique et royal, à leur manière. Ensuite, la place de l'écuménisme. Jean-Paul II insistait sur l'écuménisme dans le nouveau droit canon, par exemple sur les mariages avec les protestants ou les non-chrétiens. Autrefois, l'Église était très stricte pour permettre de tels mariages. L'Église ne permettait pas les mariages. L'Église ne permettait pas les mariages avec ceux qui ne sont pas catholiques à cause des enfants. Il fallait que les enfants soient éduqués dans la foi catholique. C'était une promesse. Chacun des deux époux promettait
pour tous les enfants, c'est baptisé catholique et éduqué catholique. Vous voyez, ah non, c'est plus ça. Plus ça. Il n'y a plus d'exigence pour protéger la foi des enfants. Et donc, Mgr Lefebvre disait, le nouveau droit canon, c'est plus grave que le concile. Parce que c'est le concile réduit en loi. Le concile devient une loi de l'Église. Et c'est plus grave. Et donc, dès cette époque, Mgr Lefebvre envisage désormais un sacre épiscopal. Il envisage. Et il s'engage dans la voie de protestation publique contre les erreurs professées à Rome. Le 21 novembre 1983, à la suite de la déclaration mixte catholique-luthérienne en Allemagne, Mgr Lefebvre écrit une lettre avec 6 points importants. Et il relève, par exemple, dans cette déclaration catholico-luthérienne, je cite, « Parmi les idées du Concile Vatican II, on peut voir l'accueil des requêtes de Luther. » C'est pas Monseigneur, c'est cette déclaration. « Parmi les idées du Concile Vatican II, on peut voir l'accueil des requêtes de Luther. » C'était l'Église catholique qui disait cela. C'est pourquoi Mgr Lefebvre écrit une lettre ouverte au pape Jean-Paul II avec Mgr de Castro-Mayer, son ami, évêque de Campos au Brésil. Je cite, dans l'histoire, oh non, ça c'est Mgr Lefebvre qui explique sa lettre ouverte au pape, dans l'histoire, on dira qu'au moment où il semblait que tout s'en allait, que tout se démolissait dans l'Église, il y a eu deux voix d'évêques qui se sont élevées et qui ont poussé un cri d'alarme. Mgr Lefebvre et Mgr de Castro-Mayer. Mais ça n'a rien à arrêter. Les scandales ont continué. Par exemple, en Italie, à Bari, c'est une ville du sud de l'Italie où il y a beaucoup d'orthodoxes, et où il y a le tombeau de Saint-Nicolas de Myre, à Paris. À Paris, le 11 décembre 1984, Jean-Paul II proclamait qu'il fallait réaliser, avec les églises orthodoxes, une union symphonique entre deux églises sœurs. Une union symphonique, ça veut dire que chaque partie ne joue pas la même partie que l'autre, mais on va quand même s'arranger ensemble. Entre les deux églises sœurs. Ensuite, ce fut la réforme du concordat italien entre le Saint-Siège et l'Italie, en déclarant que l'Italie n'était plus un État catholique, que la religion catholique n'était plus la religion de l'État. On séparait l'Église de l'État. Et le cardinal Cavaroli, délégué du pape, déclarait ceci. L'Église, maintenant, ne revendique plus de privilèges face aux citoyens des autres religions. Alors, Mgr Lefebvre disait, mais ce n'est pas un privilège que l'Église revendique, c'est son droit. L'Église a le droit d'être reconnue par l'État comme la seule vraie religion. Surtout, pratiquement dans un État, dans un pays entièrement catholique, comme l'est encore l'Italie. Comment oser dire que l'Église ne revendique plus de privilèges, mais l'Église n'a jamais revendiqué un privilège, elle a revendiqué son droit, parce qu'elle est la vraie religion. Ensuite, en voyage en Asie, en Corée, Jean-Paul II saluait les membres, je cite, de la tradition bouddhique. Je salue, disait-il, les membres de la tradition bouddhique qui s'apprêtent à célébrer la fête de la venue du Seigneur Bouddha. Fin de citation. Et le 10 mai de l'année 85, Jean-Paul II visitait un temple bouddhique en Thaïlande et s'asseyait au pied d'un gonze, au pied de la statue de Bouddha. Voilà donc des scandales. Or, voilà le pape Jean-Paul II qui brusquement va accorder un indulte à la messe traditionnelle. C'était le 7 octobre 1984, où il permettait à des groupes de fidèles organisés de pouvoir avoir de temps en temps la messe traditionnelle. Donc c'était une petite porte ouverte à la messe de la tradition catholique, sous forme d'indulte, c'est-à-dire une permission exceptionnelle, à condition, vous vous souvenez, que les fidèles qui assisteraient à cette messe indultée n'aient aucune part avec ceux qui révoquent en doute la légitimité et la validité de la nouvelle messe. Donc pour pouvoir assister à la messe traditionnelle, il fallait faire la preuve qu'on n'avait aucun intérêt à y assister. Comme disait mon Jean Mazéran, avec humour. Puis, dans la même année 84-85, ce fut la célèbre interview du cardinal Joseph Ratzinger, un petit journal italien nommé Jésus, où il disait, dans cette interview, il résumait le Concile Vatican II en disant « Le problème des années 60, puisque le Concile Vatican II a eu lieu dans les années 60, le problème des années 60 était d'acquérir les meilleures valeurs exprimées par deux siècles de culture libérale. » Autrement dit, Mme Ratzinger expliquait quel avait été le but du Concile Vatican II, accueillir dans la doctrine catholique les erreurs de la Révolution française. En particulier la liberté de tous les cultes. Pour parvenir, disait-il, à un nouvel équilibre. Donc, autrement dit, disait Mgr Lefebvre, marier l'Église avec les droits de l'homme. Et donc, Mgr Lefebvre pensait déjà à cette époque-là de plus en plus qu'il serait obligé de sacrer des évêques pour se protéger contre cette contamination d'erreurs venant, hélas, du successeur de Pierre. Il disait ceci, nous ne pouvons pas nous placer sous une autorité, non pas qu'il veuille désobéir au pape, ou qu'il mette en doute l'autorité du pape, mais nous ne pouvons pas dépendre pratiquement, concrètement, d'une autorité dont les idées sont libérales et qui nous condamnerait petit à petit à accepter ces idées et leurs conséquences. Puis, il voyait très bien, si j'abandonne ma fraternité, si je n'assure pas la continuité de la fraternité en sacrant des évêques, eh bien, mes prêtres vont dépendre de toutes ces erreurs libérales et vont être contaminés par ces erreurs du Concile. Donc je dois protéger cette petite œuvre que la Providence fait fonder. Ensuite, ce fut un dernier scandale, la réunion d'assises, où Jean-Paul II a invité les représentants de toutes les fausses religions du monde, les gothiques et les Indiens d'Amérique, même, avec leur coiffure d'Apache. C'était vraiment invraisemblable, c'était même ridicule, c'était un grand scandale. En l'année 1986. La réunion d'assises eut lieu donc en octobre 1986. Ils étaient réunis avec toutes ces fausses religions et c'était le pape, le vicaire de Jésus-Christ, qui était l'animateur de cette réunion, de toutes les religions. Ils étaient réunis pour prier pour la paix. Alors Mgr Lefebvre disait, Mais quel Dieu vont-ils prier? Vont-ils prier notre Seigneur Jésus-Christ, le seul prince de la paix, le seul vrai Dieu qui nous apporte la paix? Quel Dieu vont-ils prier? N'est-ce pas un scandale de voir le successeur de Pierre, le vicaire de Jésus-Christ, convoquer les représentants de toutes les fausses religions et de se mettre sur le même pied d'égalité qu'eux, alignés en rang d'union, assis dans la basilique de Saint-François? Donc voilà les scandales que nous avons vécus. Je vous citerai, Monseigneur Lefebvre, à l'annonce d'Assise, qui est plus ou moins à l'avance, c'est diabolique, disait-il. C'est une insulte à notre Seigneur Jésus-Christ. Qui vont-ils prier? Quel Dieu prier pour la paix? Quelle paix vont-ils demander si on ne prie pas le seul et vrai Dieu, s'ils ne prient pas notre Seigneur Jésus-Christ? Les Juifs, ils ne veulent pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Les musulmans, les bouddhistes, ils n'en veulent pas. Beaucoup de protestants ne croient pas en la divinité de Jésus-Christ. Quel Dieu vont-ils prier? Et Deus erat verbum, et verbum caro factum est, dans les paroles de Saint Jean. Et le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair. Dieu s'est homme, voilà le vrai Dieu. Il est venu habiter parmi nous pour nous sauver. On n'a pas le droit de s'adresser à quelqu'un d'autre. En mettant Jésus-Christ de côté, on ne s'adressera pas au vrai Dieu. C'est une impiété inqualifiable envers notre Seigneur Jésus-Christ. Fin de citation. Et après la réunion d'Assise, Monseigneur proteste à nouveau, je vous cite, Monseigneur Lefebvre, le péché public contre l'unicité de Dieu, un seul Dieu, contre le Verbe incarné et contre son Église fait frémir d'horreur. Jean-Paul II, encourageant les fausses religions à prier leur faux Dieu. Scandale sans mesure et sans précédent, impiété inconcevable et humiliation insoutenable pour ceux qui demeurent catholiques. Voilà les scandales. Alors, deuxième partie, mon petit exposé, la grande décision. Un de mes confrères, David Babinet, c'était en 1981, clairement, bien avant, a dit qu'un jour, Monseigneur était au Texas, a réuni ses prêtres. Il leur a dit, mes chers amis, que penseriez-vous si je devais sacrer un évêque? Eh bien, David Babinet m'a dit, tous unanimement, nous a dit, Monseigneur, faites-le. Déjà en 81, il y pensait. Mais bien avant, le père Calmel, père dominicain, cher à Monseigneur Lefebvre, écrivait une lettre à Monseigneur Lefebvre en 1974, en lui écrivant, je cite, « Un jour viendra où vous devrez sacrer un évêque pour prendre de suite. » On n'a pas cette lettre, mais c'est l'abbé Goulamier qui l'a vue et qui l'a lu cette lettre et qui nous a rapporté son contenu. Un jour viendra où vous devrez sacrer un évêque pour prendre votre suite. Vous voyez, le père Capel, bien avant que Monseigneur Lefebvre peut-être n'y pense. Je ne sais pas si en 1974, Monseigneur Lefebvre pensait déjà à sacrer un évêque. En 1974, c'était 4 ans après la fondation de la fraternité. J'étais encore au berceau. Eh bien déjà, Père Calmel mettait le doigt sur la chose qui serait nécessaire un jour. Il voyait bien des choses à Rome. Alors, Alors, Mgr Lefebvre, dans les années 82, 83, 84, a fait des consultations, parce qu'il n'a pas voulu prendre tout seul la décision. Il voulut que cette décision soit partagée par toute la tradition. Il a fait des consultations théologiques d'abord, pour bien fonder son action en doctrine. Et il a fait appel à des faits historiques de l'Antiquité chrétienne. Au moment de l'arianisme, où l'hérésie arienne était répandue dans le monde entier, et où beaucoup d'évêques avaient sombré dans l'hérésie, beaucoup d'évêques n'étaient plus catholiques, ils étaient encore sur leur siège, dans leur diocèse, mais ils n'étaient plus catholiques. Eh bien, des évêques comme saint Eusèbe de Samosate et saint Eusèbe de Verceil ont sacré ou institué des évêques, sans avoir de juridiction ou d'autorité spéciale pour le faire, et sans demander la permission au pape avant de le faire, parce que c'était des cas de nécessité. Saint Eusèbe de Samosate, mort en 380, revenant d'exil, parcourut la Syrie, la Palestine, ordonnant des diacres, des prêtres et établissant des évêques catholiques, là où il n'y en avait pas. Voilà, fait historique. Ou encore Saint Eusèbe de Verceil, vers la même époque, Verceil c'est dans le nord de l'Italie, voilà un bon évêque qui se transforma en médecin des églises défaillantes. Vous voyez, le médecin des églises défaillantes. Dans des conjectures impérieuses, dans des états de nécessité tels que l'existence même de la religion y est engagée, et que le ministère des pasteurs particuliers, des évêques, était entièrement anéanti ou impuissant, et qu'il n'y avait pas de recours possible à Rome. Et bien, Eusèbe de Verceil a aussi agi dans le même sens. Vous voyez très bien, ça c'est, je vous cite, un auteur classique, Don Crea, qui, citant ces exemples historiques, souligne les circonstances qui ont légitimé ces sacres épiscopaux sauvages, je dirais. Voilà. Il fallait un état de nécessité, tel que l'existence de la religion était en question, et que le ministère des évêques particuliers était soit anéanti, soit impuissant, et qu'il n'y avait pas de recours possible à Rome. Mais à Mgr Lefebvre a dit, c'est le cas. Voilà. La religion, c'est une nouvelle religion qu'on nous impose, une nouvelle religion, comme j'ai essayé de montrer ce matin, sans rédemption, sans rachat des péchés. Deuxièmement, les pasteurs particuliers, les évêques, leur autorité est anéantie ou impuissante. Ils n'ont plus de séminaristes, ils ont fermé leur séminaire, ils n'ont plus d'autorité. Ils ne parlent plus pour défendre la foi. Troisièmement, il n'y a pas de recours possible à Rome. Parce que le pape ne voulait rien entendre d'évêques traditionnels, comme nous allons le voir. Alors, Mgr Lefebvre m'a dit, je suis dans ce cas de nécessité. Mais il disait, j'attends un deuxième signe. Assise, c'est le premier signe, j'attends un deuxième signe de la Providence. Je ne peux pas précéder la Providence. Donc il a voulu attendre. On était en 85, 86, il a attendu jusqu'en 88. Il attendait un deuxième signe. Et le deuxième signe fut la réponse romaine à nos doubias. Chose que vous ne connaissez peut-être pas, les doubias sont des questions que nous avons posées à Rome sur la liberté religieuse. En montrant à Rome que la liberté religieuse du Concile Vatican II est en désaccord et en contradiction avec l'enseignement des papes précédents. Tous les papes, depuis Pie VI, Pie VII, jusqu'à Pie XI, et Pie XII même, tous les papes avaient condamné la liberté religieuse. et avait proclamé les seuls droits de la vraie religion devant l'État. Même Bidoun, qui avait proclamé le droit au culte du vrai Dieu. Le droit au culte du vrai Dieu. Bidoun. Nous célébrons les 50 ans de sa mort. 9 octobre, il y a 3 jours. Donc tous les papes avaient condamné la liberté religieuse. Alors nous avons présenté nos doutes, d'où vient les doutes à Rome. Voilà, ça ne concorde pas, expliquez-nous. Alors, Monseigneur a reçu une réponse de Rome qui disait « La liberté religieuse est une nouveauté dans la continuité. » Allez-y comprendre quelque chose. Il reconnaît que c'était une nouveauté, mais c'était quand même dans la continuité. Alors Monseigneur a dit, Monseigneur Dauphère a dit, c'est plus grave encore qu'à Assise. Car une chose est d'accomplir une action grave et scandaleuse, autre chose est d'affirmer un principe faux, qui dans la pratique aura des conclusions et conséquences désastreuses. En particulier la libre diffusion des fausses religions. Par exemple, en France, nous sommes dépourvus de tout moyen légal, s'appuyant sur la loi, pour empêcher la construction des mosquées. Impossible. Parce que la France reconnaît la liberté religieuse. Et ça, c'est le Concile Vatican II qui dit la même chose. Qu'un État laïque comme la France le juge, c'est déjà scandaleux. Mais que l'Église, dans un concile, proclame la même erreur, avec toutes les conséquences catastrophiques, qui la diffusion d'une fausse religion ennemie de l'Église catholique, mais c'est encore plus grave. Alors, Mgr Le Père disait, dans son sermon du 29 juin 87, pendant les ordinations, il est probable que nous nous donnerons des successeurs dans l'épiscopat. Donc là, si vous voulez, il pose une menace à Rome. On ne va pas pour faire une menace, mais de fait, ça a été une menace. Rome a été mise sous pression. Le Saint-Siège a été mis sous pression. Monseigneur Le Père annonçait un an à l'avance qu'il allait donc procéder à des sacres épiscopaux. Et aussitôt, Rome a été mise en émoi et le cardinal Ratzinger, qui était alors préfet de sa congrégation pour la doctrine de la foi, a convoqué Mgr Lefebvre à Rome le 14 juillet 1987 pour discuter. Dans cette discussion, Jan Ratzinger a commencé par expliquer à Monseigneur, mais Monseigneur, la liberté religieuse, c'est juste. L'État n'est pas capable de juger quelle est la vraie religion. L'État est incompétent en matière religieuse. Il doit donc laisser la liberté à tous les cultes. Voilà. Alors, Monseigneur Le Père disait, mais éminence, l'État a quand même une fin ultime, une fin dernière, qui est le salut des âmes. Et le cardinal de répondre, non, Monseigneur, ça c'est l'Église. Comme si l'État n'avait rien à voir avec le salut des âmes. Comme si l'État, dans le domaine temporel, qui est son domaine, ne fait pas tout faire pour sauver les âmes, pour favoriser le salut des citoyens. C'était une profession de la part du cardinal du plus strict laïcisme, la laïcité la plus stricte. Et Monseigneur Le Père fut scandalisé. Alors le cardinal Ratzinger a dit, mais bon, Monseigneur, on pourrait trouver quand même un accord pratique. On va voir, le Saint-Père va étudier la question d'un sacre épiscopal, la question de... Voilà, bon. Et la Mgr Le Père lui a dit, à la fin de l'entretien, éminence, même si vous nous donnez tout ce que nous désirons, même si vous nous donnez un évêque, mais si vous nous accordez la messe de toujours, même si vous permettez la continuation de nos séminaires et de notre œuvre, nous ne pouvons pas collaborer. Parce que vous, vous êtes pour la destruction du règne de Jésus-Christ. Et nous nous sommes tout entiers tendus vers la construction du règne de Jésus-Christ. Voilà. C'est la confrontation. Nous ne pourrons pas collaborer. Les tractations se sont poursuivies toute l'année 88 à Rome. Je me souviens, parce que j'en ai fait, Mgr Le Thème m'avait nommé avec l'abbé Patrice Laroche, voyez, c'est théologien. Moi j'étais le théologien de Mgr Le Thème, c'est un bien grand mot. Et l'abbé Laroche était le canoniste de Mgr Le Thème. Vos deux premiers pasteurs ici à Colmar. Vous voyez quel rôle nous avions important. Nous étions bien gênés, discuter avec des grands messieurs comme le père Benoît Duroux, un grand dominicain, mais très progressiste, le père Tarcisio Bertone, qui est devenu secrétaire d'État, on discutait avec lui, hein, secrétaire d'État aujourd'hui, et puis le père Ocaris, qui était un membre de l'Opus Dei, un canoniste, et puis le cardinal Ratzinger, qui est devenu pape, on discutait avec lui. Voilà. À Rome, pour tâcher d'obtenir d'eux un évêque. Puis il n'y avait rien à faire, il nous disait, mais vous n'avez pas besoin d'évêque. Une fois que vous serez reconnu par Rome, officiellement, votre fraternité serait reconnue par Rome, vous aurez tous les évêques du monde pour ordonner vos prêtres. Vous voyez la mauvaise foi. Ils savaient très bien qu'on n'accepterait pas d'être ordonné par tous les évêques du monde. On regardait d'abord la bonne doctrine qu'ils avaient ou qu'ils n'avaient pas. Puis si c'était validement évêque ou pas. Ils ne voulaient pas donner un évêque. À force, finalement, à force de discuter, on a obtenu. Bon, alors vous aurez un évêque, on va suggérer au Saint-Père qu'il puisse envisager la possibilité de nommer un évêque qui pourrait être consacré pour le 15 août, de l'année mariale. Voilà. Mais il y avait des conditions qu'on nous a signifiées le 30 mai 1988. Nous étions en réunion au prieuré Notre-Dame du Pointet, Mgr Lefebvre, avec tous les prêtres, les grands prêtres de la tradition, les fraternités ou les congrégations amies, même les religieuses, pour discuter de ce sacre. Et vient un télégramme de Rome qui nous communique les conditions du Saint-Siège. Oui, le Saint-Siège serait prêt à considérer l'éventualité d'un sacre épiscopal à condition que vous nous envoyiez de nouveaux noms. Parce que Monseigneur avait déjà envoyé des noms pour ceux qui voulaient devenir évêques. Alors le Saint-Siège demande de nouveaux noms afin de pouvoir nommer quelqu'un qui ait le profil voulu par le protocole d'abord que nous avions signé le 5 mai. Il fallait que l'évêque ait le profil voulu. Autrement dit, Rome désignerait l'évêque le plus libéral possible. Peut-être Don Gérard, je ne sais pas. Le plus libéral, le plus faible possible pour pouvoir nous garder sous la main du libéralisme. Mgr ne serait pas libre de proposer ses candidats. Et il a très bien vu ça, Mgr Lefebvre. Donc il a fait cette réunion à Notre-Dame du Pointet, le 30 mai 88, où chacun a donné son avis. Moi je me souviens, je n'étais pas d'accord pour le sacre. J'ai dit, Monseigneur, il vaut mieux avoir la permission du pape avant, s'il vous plaît. Je me souviens, j'avais dit ça. Je n'étais pas un bâton en guerre. Hein. Je n'étais pas celui qui poussait Monseigneur Lefebvre au sacre. Rares étaient ceux qui poussaient Monseigneur Lefebvre à faire le sacre. Et Monseigneur Lefebvre disait plus tard, c'est curieux, tout le monde prétend que j'ai subi des pressions pour faire ces sacres, mais non, c'est le contraire. C'est moi qui ai entraîné tout le monde. Et pendant ces discussions, le cardinal Ratzinger a dit à un moment donné, chose révélatrice, je verrais très bien qu'à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, à Paris, à côté des messes traditionnelles, il y a une messe de la paroisse. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Une messe de la paroisse. Ça veut dire qu'une des messes serait la messe nouvelle pour les paroissiens qui ne venaient plus. Donc il aurait fallu que, en plus des messes traditionnelles que nous aurions à Saint-Nicolas, il y aurait la messe nouvelle. Il voulait la cohabitation des deux rites. Alors Monseigneur Lefebvre nous a dit, à la mi-temps, n'est-ce pas, à midi, on prit un peu de repos, une sieste. Alors Monseigneur Lefebvre nous a réunis, moi il avait la roche en disant, moi j'arrête, j'ai compris. Ah, nous étions, mais Monseigneur, vous arrêtez, mais il nous donne un évêque quand même, c'est extraordinaire. Moi j'arrête, j'ai compris. Ah, j'ai compris, je ne peux plus. Parce qu'ils veulent que nous acceptions une nouvelle messe. Voilà. Donc vous voyez trois choses. Vous n'avez pas besoin d'évêque. On vous en donne un, mais vous n'avez pas besoin. Deuxièmement, à Saint-Nicolas et Jardonnay, il faudra avoir la messe nouvelle aussi. Et troisièmement, il faut que l'évêque que vous proposez ait le profil voulu. C'était inacceptable. C'était nous livrer pied et point pied à la Rome moderniste. Voilà les raisons ultimes du sacre. C'est pourquoi Monseigneur Lefebvre a pris cette décision de procéder au sacre épiscopal. Est-ce que je vais vous dire là-dessus? Alors, au dernier moment, son grand ami, je ne sais plus comment il s'appelait, c'était un académicien, Jean Guiton. Un grand ami, c'est beaucoup dire, un faux ami. Enfin, un brave homme, mais un libéral complet. Alors, il dit, Monseigneur, avant les sacres, je voudrais avoir un ultime entretien avec vous. Et l'après-midi, la veille, il est venu, Jean Guiton. Et Monseigneur a eu la bonté de le recevoir. Alors, Jean Guiton est parti en pleurant en disant, c'est l'adieu, adieu, adieu, Monseigneur. Il y a de la pression sur Monseigneur Lefebvre. Et alors, je me souviens, au matin du sacre, en descendant vers la prairie en procession, de tête vue sur les images, on voit Monseigneur Lefebvre inquiet, tendu, sévère, pénétré de la gravité de l'acte qu'il va poser. Alors qu'un hélicoptère tournait autour, et puis brusquement il a fondu sur nous, on demandait qu'est-ce qu'il va faire, il ne se passe pas non plus de mitrailler. Donc c'est des photographes, simplement. On n'était pas rassuré. La cérémonie se passe, qui a duré 4 heures au plus. Et alors, quand Monseigneur nous a imposé la mitre, vous avez vu l'image, quel sourire s'épanouit sur son visage. Il était soulagé. Il était en paix. Entrer dans la cérémonie avec inquiétude, à la fin, il est pacifié. C'est un signe qui ne trompe pas. Il n'a pas fait cet acte dans l'incertitude, non. Cet acte lui a apporté la paix. Il avait transmis ce qu'il avait reçu. Voilà. Ce qui explique ce grand soupir. Et disait, je ne sais pas comment j'ai pu tenir 4 heures. Il était rajeuni à la fin de la cérémonie. Il aurait dû être épuisé. Il était rajeuni. Il serre la main du prince de Bourbon-Parme, parfaitement à l'aise. Voilà. Pourquoi? Quelle fonction nous a-t-il donné? Quel est notre rôle? Nous n'avons aucun rôle dans la fraternité. Nous devons simplement assurer les ordinations sacerdotales et les confirmations. Voilà, les tâches d'évêque. Nous n'avons pas de rôle de direction dans la fraternité, sauf si un des évêques est élu supérieur général, comme c'est le cas pour Mgr Fellet. Mais ce n'est pas parce qu'il est évêque, c'est parce qu'il est supérieur général. Donc il demande la fraternité Saint-Pudice parce qu'il est élu supérieur général. Mais les évêques n'ont aucun pouvoir, aucune juridiction sur un troupeau particulier. Vous ne pouvez pas dire Monseigneur Tissier est l'évêque de la France, c'est faux. En plus, il n'est pas l'évêque de l'Est de l'Alsace non plus. Parce que nous prenons dans le monde entier les quatre les uns après les autres. Je viens de faire une tournée aux Philippines, en Australie et en Nouvelle-Zélande, comme l'avait fait Monseigneur Richardson l'année dernière. On se succède les uns après les autres. Nous n'avons pas de juridiction territoriale, parce que ça pourrait être pris pour un acte schismatique, de s'attribuer un troupeau particulier. Nous sommes des évêques supplétifs. Nous avons une juridiction de suppléance pour remplacer la juridiction des évêques défaillants dans la foi et pour transmettre le pouvoir d'ordre aux prêtres, pour transmettre le Saint-Esprit aux enfants dont on a bien besoin. Alors, bien cher fidèle, 20 ans après, est-ce qu'il ne faudrait pas chercher maintenant un accord avec Rome, recevoir l'approbation de Rome pour ces sacres illicites, que le pape bénisse ou absolve cet acte schismatique? Est-ce qu'il ne faudrait pas chercher à ce que la fraternité Saint-Pédis soit officiellement reconnue 20 ans après? N'est-il pas temps maintenant? Le temps se fait long, on vieillit. Le combat s'est duré. Signons une paix. Si faisons la paix maintenant avec Rome, avec ce pape qui semble pas mal, ce pape qui a libéré la messe avec quand même un motu proprio déclarant que la messe est libre, avec un pape qui donne la communion sur la bouche et non pas dans la main, avec un pape qui, c'est tout, il n'a jamais célébré encore la messe traditionnelle, sauf un intégré final pour ordonner les prêtres à l'église pascale, les prêtres de la fraternité Saint-Pierre. Bon, n'en parle pas. Eh bien non, cher fidèle, non, pas du tout. Ce n'est pas la motu proprio, ce n'est pas parce que le pape a donné quelquefois la communion sur la lèvre, sur la langue, que ça change quoi que ce soit. Ce matin, je vous ai expliqué très bien que malheureusement, les hérésies continuent d'être professées à Rome. Vraies hérésies sur le mystère de la rédemption, où le Benoît XVI ne croit pas à la rédemption, je vous ai expliqué ce matin. Ensuite, deuxièmement, sur la messe, qu'est-ce qu'il a fait le Benoît XVI en venant en France pour venir à Lourdes? Alors, dans l'avion qu'il a mené à Paris, alors il a été interrogé par des journalistes sur la motu proprio. Alors, il a répondu: ce motu proprio, c'est seulement une tolérance. Voilà. La messe traditionnelle, c'est seulement une tolérance. Il a dit ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tolérance? On tolère un mal, cher fidèle. On tolère quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. On tolère un mal qu'on ne peut pas empêcher. Donc, pour Benoît XVI, la messe traditionnelle, c'est un mal qu'il ne peut pas empêcher. Donc, il le tolère. Donc, il a décrit ce motu proprio. Il donne lui-même l'interprétation de son texte. Alors, ne dites pas que le pape est tout feu tout flamme pour la tradition. Il tolère la tradition comme un moindre mal. Comme un mal qu'on tolère. Mais je voudrais revenir sur le mystère de la rédemption. Parce que ce matin, je n'ai pas assez expliqué les choses, il me semble. Si ça ne vous ennuie pas un petit peu, pour nous la rédemption, c'est le rachat de nos péchés. Nous étions des débiteurs insolvables à cause de nos péchés, condamnés à l'enfer éternel par la justice de Dieu. Alors Dieu a dit: je ne peux pas laisser ça, je vais me faire homme, je vais offrir un sacrifice, ma vie en sacrifice à Dieu mon Père, pour équilibrer l'injure du péché, pour offrir à mon Père Céleste une action éclatante, 100 fois plus agréable que n'avait été désagréable tous les crimes de l'humanité. Je vais compenser les crimes de l'humanité par l'offrande de mon sacrifice. Voilà ce à quoi Dieu a rêvé de toute l'éternité. C'était homme, mourir sur une croix pour expier nos péchés sur la croix. C'est la doctrine de toute l'Église. On a toujours cru cela dans l'Église. que le sacrifice de la croix est un vrai sacrifice expiatoire, qui a fait l'expiation de nos péchés, qui enverra Dieu pour nous, à notre place, une satisfaction parfaite et surabondante. Comme l'expliquait ce matin, pour trois raisons. Premièrement, à cause de la dignité de la vie que Jésus offrait, qui est la vie d'un homme-Dieu. À cause de la charité avec laquelle il offrait sa propre vie. Voilà, les trois dimensions, j'ai oublié. Et l'obéissance à son Père qui lui avait donné ce commandement. Voilà. Alors, il nous a rachetés de cet esclavage du démon par son précieux sang. Comme Saint-Pierre dit, nous n'avons pas été rachetés avec de l'or et de l'argent, mais par le sang, très précieux sang d'un agneau immaculé de Christ. C'est le foie. Alors, que dit maintenant Benoît XVI, et qu'est-ce qu'il disait il y a 40 ans, et il dit toujours, non, ce n'est pas cela. Jésus n'a pas fait d'expiation, il n'a pas fait une œuvre de justice, il n'a pas rendu justice à son Père. Il a seulement aimé pour nous, il s'est substitué pour nous, pour aimer à notre place. Parce que le péché, c'est un manque d'amour. Le péché, ce n'est pas une offense de Dieu, c'est un manque d'amour. Et donc Jésus a aimé pour nous. Sur la croix, il a aimé pour nous. C'est vrai que Jésus a fait l'acte le plus grand amour qui puisse être fait, de donner sa vie pour nous. C'est vrai, il a aimé pour nous. C'est suffisant. C'est pas pour ça qu'il nous a rachetés. Il nous a rachetés en versant son sang comme prix de notre rachat. Se substituant à notre expiation par toutes ses souffrances. Il n'a pas seulement aimé sur la croix, il a d'abord souffert. Oui. Vous voyez, comme il désincarne la croix, il décloue Jésus-Christ, il le décrucifie. On ne veut plus parler des souffrances de Jésus. Il le dit dans son livre qu'il a écrit en 67-68. C'est un faux christianisme d'insister tôt sur les souffrances de Jésus. C'est l'habitude de contempler la passion de Jésus, le détail de toutes les souffrances de Jésus. C'est une piété doloriste. Ce n'est pas ça. C'est une déviation de la piété. Nous contemplons l'amour, amour, amour de Jésus. Ben non, ce n'est pas seulement ça. C'est une religion sublimée. C'est une religion gnostique qui nous fait. Ce n'est pas la rédemption. Ensuite, une autre chose que je dis ce matin, alors c'est dans sa dernière encyclique de Benoît XVI, Spe Salvi, qu'il a écrit il y a un an, sur l'espérance chrétienne, il parle de la rédemption en disant la rédemption, c'est le fait que Jésus a partagé notre condition souffrante et malheureuse. Quand vous avez quelqu'un qui vient à vous, à votre chevet, que vous êtes malade à l'hôpital, et qui dit je compatis à vos souffrances, eh bien, ça vous apporte, dit-il, un moment de rédemption, un soulagement, un encouragement. Voilà pour Benoît XVI la rédemption. C'est quelque chose de psychologique, c'est une consolation psychologique que Jésus nous a apportée en souffrant sur la croix, en participant à nos souffrances. Rien de plus. Il n'y a pas l'expiation de nos péchés. Parce qu'on ne veut plus parler du péché. La rédemption, il n'y a plus de péché pour Benoît XVI. Jésus n'est pas venu expier nos péchés. On revient toujours à la même affirmation, plutôt à la même négation. Et il ajoute, comme il disait ce matin, c'est la résurrection de Jésus qui est un acte de justice. Un acte de justice, la résurrection. Parce que la résurrection supprime la souffrance. Voilà. Donc Dieu, Jésus, par sa résurrection, fait justice aux hommes en supprimant la souffrance. Et en rétablissant le droit, c'est-à-dire que la souffrance était injuste. que Jésus, en ressuscitant, supprime la souffrance et rétablit le droit, afin que l'homme ne souffre plus. Eh bien, c'est faux, parce que la souffrance a au contraire une grande valeur aux yeux du bon Dieu, pour nous sanctifier, pour expier nos péchés, pour sauver des âmes, que font des malades à l'hôpital en offrant leur souffrance. C'est bien pour sauver des âmes. Donc, voyez comment Benoît XVI garde le mot rédemption. Il le garde, mais il en change complètement la signification. C'est une religion gnostique, sublimée. On supprime la souffrance, le sacrifice, on n'en veut plus. On garde l'amour, amour, amour. Ce n'est pas notre religion. Monseigneur Lévesque disait très bien, la religion chrétienne et catholique, c'est la religion du sacrifice. L'esprit chrétien, c'est l'esprit de sacrifice. Il n'y a pas de vrai amour sans sacrifice, ici-bas. C'est impossible. Nous avons aujourd'hui, dans l'Église catholique, une religion réduite, une religion existentialiste, une foi raccourcie, une religion subtilisée, une vraie gnose. Et alors, le cardinal Ratzinger, quand il était abbé Ratzinger, dans son livre écrit en 1968, dit « C'est une révolution dans l'idée d'expiation. Jésus n'expie pas nos péchés, Jésus aime pour nous. » Et puis cette révolution, dit-il, a eu sa conséquence dans le culte chrétien et dans toute l'existence chrétienne. Tout le culte chrétien et toute l'existence chrétienne en ont reçu une nouvelle orientation. Et bien, qu'est-ce que cette nouvelle orientation? C'est la nouvelle messe. La nouvelle messe n'est rien d'autre que la réalisation de cette hérésie qui refuse le sacrifice et la souffrance expiatrice. C'est la nouvelle messe. Et c'est pourquoi ces modernistes ont attaché Mordicus à la nouvelle messe. Parce qu'elle est l'expression de leur hérésie. Mais oui, il y a une racine doctrinale à la nouvelle messe. Et le père Bounieilly, qui est l'auteur de la nouvelle messe, le dit lui-même. Cette nouvelle messe a été introduite par des ferments novateurs dans la théologie. On a dépassé ce que le Concile Vatican II voulait pour réformer la messe par de nouveaux ferments novateurs, théologiques. Eh bien, c'est ça, c'est le refus de la rédemption. C'est la nouvelle messe. Et je vous cite un texte qui a paru au moment de la Nouvelle Messe, au moment où la Nouvelle Messe était introduite en 1969. Vous avez ça dans la documentation catholique du 20 octobre 1969. Je cite. À partir du Concile, s'est propagée dans l'Église une onde d'optimisme, un christianisme stimulant et positif, amis de la vie et des valeurs terrestres, une intention de rendre le christianisme acceptable, aimable, indulgent, ouvert, débarrassé de tout rigorisme moyenâgeux, de toute interprétation pessimiste des hommes et de leurs mœurs. Fin de citation. C'est tout ça, n'est-ce pas? On a débarrassé de la religion de toute interprétation pessimiste de l'homme, du péché. On a supprimé le péché. On parle encore de rédemption, il n'y a plus de péché. chers fidèles, je pense que j'ai fait le tour du sujet, je viens à ma conclusion. Donc, ne nous illusionnons pas, 20 ans après les sacres, la crise de l'Église n'est pas résorbée, n'est pas finie, elle ne fait que continuer, s'accentuer encore. Les erreurs sont toujours professées en haut lieu à Rome, et donc ce n'est pas aujourd'hui ni demain que nous pourrons obtenir un accord pratique avec Rome, ou même un accord théorique avec Rome. Il faut s'attendre à un combat de longue durée encore. Ça fait 40 ans que la crise demeure, elle pourra encore durer plusieurs décades. Je ne veux pas vous accabler de chagrin à cette perspective. Peut-être que moi-même, je ne verrai pas la victoire, mais nos enfants la verront. Comme je le disais ce matin, je suis convaincu que dans l'Église, tout reviendra comme avant. C'est impossible que Dieu tolère que la religion fausse triomphe. C'est une question d'année, c'est une question de persévérance. Donc à nous de nous organiser mieux que jamais pour pouvoir durer. Donc avec nos séminaires, nos prieurés, nos prêtres, nos religieux, les congrégations amies, avec nos familles, aux nombreux enfants qui sont une bénédiction pour la France et pour l'Église. Avec nos écoles vraiment catholiques, avec l'engagement politique des laïcs, comme je l'ai dit ce matin, non pas du mal s'inscrire à un parti, n'a rien à voir avec cela, il s'agit de promouvoir, comme disait Saint-Médis, de bonnes lois, de régner l'ordre chrétien, lutter pour l'ordre chrétien. Il faut continuer à combattre, ce combat va durer longtemps, organisons-nous, et faisons confiance à la très sainte Vierge Marie, forte comme une armée rangée en bataille, elle qui a mérité de terrasser toutes les ennemis, toutes les hérésies dans le monde entier. Donc mettons-nous sous l'égide de Marie, en priant notre rosaire, cette croisade du rosaire que Monseigneur Le Fenet a proposé. Christ roi. Je vous remercie de votre attention.
Yes. Merci beaucoup, Monseigneur, pour ces précisions sur les sacres qui nous montrent, avec le développement que vous avez fait ensuite sur le pontificat actuel, que l'état de nécessité qui avait donné à Monseigneur, qui avait montré à Monseigneur que le bon Dieu lui demandait de faire ces sacres, cet état de nécessité, 20 ans après, continue. Il continue avec l'œcuménisme, il continue avec la liberté religieuse, il continue avec la nouvelle messe qui règne partout. Et donc, en tenant compte de cela, vous avez bien rappelé que l'accord n'était pas en vue, il était exclu. Nous ne pouvons pas faire comme ceux qui disent qu'il n'y a plus d'état de nécessité, prêtres de Campos, institut du bon pasteur, et qui vont se mettre aux ordres de la hiérarchie actuelle. C'est exclu. Que Dieu nous garde dans cette fidélité à la ligne catholique que nous a donnée Monseigneur, nous voulons rester catholiques romains. Vous disiez, Monseigneur, que Monseigneur avait sacré des évêques pour donner le sacrement de l'ordre, conférer les ordres, et puis les confirmations. Cependant, je me souviens bien l'avoir entendu dire, les évêques n'ont pas seulement cette mission, ils ont aussi la mission de prêcher la doctrine. Ils sont le magistère ordinaire de l'Église. Et Monseigneur se réjouissait de son vivant de voir que les évêques qu'il avait consacrés faisaient vraiment, dispensaient, donnaient aux âmes cet enseignement. Et nous vous remercions aussi aujourd'hui dans cette conférence que vous voulez nous faire, de nous avoir rappelé les enseignements, l'analyse de la dernière encyclique du souverain pontife à la lumière de la doctrine catholique. Et donc, nous avons des évêques qui nous rappellent la doctrine dans la crise. Ceci est très important, mes chers amis. Car s'il n'y avait pas eu les sacres il y a 20 ans, aujourd'hui nous aurions peut-être eu la conférence d'un évêque conciliaire qui serait venu nous expliquer que l'écuménisme au fond ce n'est pas si mal que ça, que la liberté religieuse c'est l'avenir pour nos pays, et que la nouvelle messe il faudra bien y passer un jour. Alors nous demeurons guidés par des pasteurs que sont les évêques, nos évêques, les évêques de la tradition. Il n'y en a pas 36 000, n'est-ce pas? On en compte 4. Et bon, peut-être un jour il y en aura-t-il davantage. Dieu le sait. Mais nous remercions Monseigneur Lefebvre de nous avoir donné donc des vrais évêques et des évêques catholiques. Et ceci est indispensable aujourd'hui. Alors, remercions Monseigneur. Prions pour nos évêques. Leur tâche n'est pas aisée. Et gardons-les bien, ainsi que les supérieurs de la fraternité, dans nos prières quotidiennes, dont ils ont bien besoin pour mener à bien la tâche de veiller sur nos âmes et de nous donner la bonne doctrine, la doctrine catholique, qui nous conduira au ciel. Merci, Monseigneur. Peut-être à 5 heures, vous avez un moment de battement maintenant pour bien respirer après avoir eu ce film et la conférence dans la salle. Donc prenez bien l'air et à 17 heures, vêpres solennelles, vêpres à terre.